Je vous avais demandé deux portions, Matthieu 19. Versets 16 à 26. Puisque vous commencez à vous habituer aussi, alors je dirai dans la dernière version de second. Jésus vient d'accueillir les petits-enfants et puis, à ce moment-là, quand il part, un jeune homme riche s'approche de lui. Verset 16. Alors un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. » Vous remarquez déjà quelque chose ? C'est pas quelque chose, hein. C'est quelqu'un. Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, puisqu'il prétend qu'il veut faire. Eh bien, Dieu a donné des commandements, alors accomplis-les. Alors lui, tout de suite, il demande lesquels ? Parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Et comme quelqu'un l'a dit, chez les Juifs, on compte 613 commandements. Mais le Seigneur les résumait en 10, comme du reste les pharisiens aussi, la secte la plus religieuse, plus exacte. Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, 4. Tu ne commettras pas de vol. 5. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai gardé tout cela. » Dans un autre évangile, il dit, « J'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. Hein. » Mais c'est ici, dans Matthieu, qu'il pose la question, « Que me manque-t-il encore ? » Est-ce que ça répond peut-être à une pensée que vous avez eue au cours de votre existence ? « Qu'est-ce qui me manque à moi ? » ?»« Que me manque-t-il encore ?» Voilà ce que ce jeune homme pieux demande au Seigneur. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Mais ça ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il lui demande ? Puis, une fois que tu as réglé ça, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, ce jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, entendant cela, étaient très étonnés. Ils dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Jésus les regarda. Et je voudrais que vous sentiez le regard de Jésus aussi, dans cette retraite. Non pas mon regard à moi, mais le regard de Jésus. Que vous éprouviez qu'il vous regarde. En cette soirée du 7 novembre. Et qu'est-ce qu'il leur dit ? Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Alors immédiatement, voilà Pierre qui pense à ce qu'il a quitté, lui. Pierre prit la parole et lui dit, voici, que nous avons tout quitté et que nous avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et il ajoute, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, maison, frère, sœur, père, mère, femme, enfant ou terre, recevra beaucoup plus et héritera la vie éternelle. Et il termine ce passage en disant, plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Donc, c'est un jeune homme qui n'a pas suivi Jésus. Et quelle a été l'attitude de Jésus quand vous lisez les autres évangiles à l'égard de ce jeune homme riche? Prenez dans Marc, au chapitre 10. Verset 17. Marc 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, vous voyez un détail que nous n'avions pas dans Matthieu, il lui demanda, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon. Si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne dis pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Lui, il répondit, maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. Et qu'est-ce qui est ajouté? C'est ça qui est merveilleux. Jésus l'ayant regardé les mains. Puis il lui dit, parce qu'il a demandé, que me manque-t-il encore, hein? Une chose te manque, ou il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais lui s'assombrit à ses paroles. Bien, voyez-vous, au cours de cette retraite, je sais que l'Esprit de Dieu, par la parole, vous a travaillé. Et que certains ont été pas mal bousculés. Et se sont demandé dans quelle mesure ils vivaient leur christianisme. Lui s'assombrit à ses paroles. Et il s'en alla tout triste. Ce serait lamentable qu'à la fin de cette retraite, vous partiez tout triste. parce que vous êtes resté attaché à des choses qui ont tant d'importance pour vous, alors que le Seigneur vous demande simplement de tout laisser pour le suivre, de lui faire éperdument confiance. Et Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Et plusieurs m'ont parlé de situations familiales difficiles, des enfants qui ne suivent pas le Seigneur, un mari ou une femme qui n'est pas au Seigneur. Et vous êtes là, près d'eux, avec eux, les entendant, leur répondant. Comment les regardez-vous quand vous voyez qu'ils s'obstinent à ne pas vous suivre ou à ne pas adhérer à ce que vous croyez? Quelle est votre attitude? Quelle a été l'attitude de Jésus? Jésus, l'ayant regardé, l'aima. S'il y a cet amour, et si vous conservez cet amour pour ces êtres qui s'obstinent, qui vous peinent, qui vous chagrinent, qu'est-ce qui sortira de cet amour? Il sortira le salut. Ce jeune homme, sur l'heure, il n'a pas suivi Jésus. Mais ce qu'il a pu garder dans son cœur, c'est un visage d'amour. Un regard qui lui disait qu'il était aimé. Mais ce qui nous arrive à nous, bien souvent, quand nous avons, avec beaucoup de talent peut-être, exposé le plan du salut. Il y a tant de gens qui nous disent, moi j'ai exposé le plan du salut à cette personne, elle n'a rien voulu entendre. Vous étiez très heureux d'exposer le plan du salut, je ne dis pas que vous avez mal fait, mais le plan du salut, ça va plus loin que des paroles. Ce qu'il faut, c'est qu'on sente cet amour et qu'il reste un souvenir d'amour dans le cœur même du révolté. Qu'est-ce qui s'est passé chez le fils prodigue au milieu de ses pourceaux alors que personne ne lui donnait rien? Eh bien, tout à coup, celui qui avait voulu supprimer son père avant le temps, puisqu'il lui demandait son héritage, et qui est parti avec les biens qu'il avait reçus de son père, il les a tout dépensés en vivant comment? Dans la débauche. Une vie qui n'était pas du tout à la gloire de Dieu et à l'honneur de son père. Mais pourtant, quand il a eu tout perdu, à qui a-t-il pensé? À son père. Et croyez-le, tôt ou tard, si vous avez eu cet amour, l'âme avec laquelle vous avez maintenant peut-être des difficultés sera sauvée. Le croyez-vous? C'est difficile pour les hommes. C'est impossible aux hommes, mais c'est possible à qui? À Dieu. Et c'est là que la foi s'empare de ses vérités et rappelle à Dieu ce qu'il a exprimé clairement. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est que tous soient sauvés. C'est pas du côté de Dieu qu'il y a l'obstacle. Et c'est tellement clair, si vous prenez dans Ézéchiel, mais c'est là qu'il faut connaître la parole pour que l'Esprit vous rappelle un texte qui va vous inciter à prier. Et au chapitre 18 du livre d'Ézéchiel, qui connaît le verset ? Verset 22, parlant verset 23, est-ce que je désire avant tout la mort du méchant? C'est donc d'un méchant qu'il est question là. Oracle du Seigneur, n'est-ce pas qu'il se détourne de sa voie et qu'il vive? Et puis, dans Timothée, alors, vous avez encore un autre texte qui vient vous confirmer celui de l'Ancien Testament. Chapitre 2 de la deuxième épître, de la première épître à Timothée. J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, des intercessions, et puis même des actions de grâce. Est-ce que vous pourriez déjà bénir le Seigneur pour le salut de votre mari ou de votre femme? Parce que vous y croyez? Parce que vous savez que le jour viendra où le Seigneur peut toucher son cœur? Ou pour vos enfants, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute dignité et piété. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut, alors là vous l'avez très clairement, ce texte, que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, docteur des païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains pures, sans colère, ni contestation. Il y a un temps où nous pouvons parler du Seigneur à une âme qui nous est proche, mais il y a aussi un autre moment où nous devons parler de cette âme acquise au Seigneur. Il y a un moment où vous pouvez aussi vous taire, mais ce n'est pas parce que vous vous taisez que l'œuvre ne se fait pas. Mais vous priez, et ça avancera beaucoup plus. Et puis vous témoignez l'amour. Car c'est l'amour qui donne la vie. Maintenant, nous avons cet arrière-plan que ce qui manque bien souvent pour que l'œuvre se fasse, c'est l'amour. On a parlé, on avait de grands dons, on a fait venir même quelqu'un en pensant que cette personne pourrait convaincre celui que nous n'avons pas pu convaincre nous-mêmes. Puis voilà qu'on est déçu. Alors nous arrivons maintenant au chapitre 13 que vous avez lu et qui est le fond de votre méditation. Je lis depuis le verset 31 du chapitre 12. Aspirez aux dons les meilleurs. Que vous manque-t-il encore? Est-ce que ce sont un ou l'autre de ces dons du chapitre précédent? Je vais vous montrer une voie par excellence. Alors, vous vous en souviendrez que dans cette retraite qui est la dernière de l'année, et peut-être aussi la dernière que nous avons ici, je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et quelle est cette voie par excellence? C'est l'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Ça fait du bruit, hein? Il n'y a pas d'effet. Et quand j'aurai le don de prophétie, que je pourrai montrer clairement ce qui va arriver dans l'avenir, la science de tous les mystères, si je pouvais tout expliquer, répondre à toutes les questions que l'on me pose, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, parce qu'il y en a qui pensent, mais si les miennes ne se sont pas converties, c'est que je n'avais pas assez de foi. Mais non. Quand vous auriez même la foi, jusqu'à transporter des montagnes, une foi puissante, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, hein, vous êtes absolument là dans le social, vous donnez tout même. Et ayant tout donné, qu'est-ce qui vous reste? Votre corps. Eh bien, si vous arriviez à être dépouillé complètement de tout, qu'il vous reste votre corps, et que vous pensiez, bien, je vais encore donner mon corps, même pour être brûlé. Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. Mais est-ce que nous sommes convaincus? Alors donc nous savons que ce n'est pas ces choses-là qui nous manquent, les choses qui sont dans le chapitre précédent. Et puis, depuis le verset 4, vous l'aurez remarqué, vous avez une description de ce qu'est l'amour. L'amour en action. L'amour en action. Dans votre situation. Et quelle est la première chose qui est mentionnée? La passion. C'est vrai ou c'est faux? Alors ça vous reste. L'amour est passion. Et la patience, alors? Comment est-ce qu'elle nous est donnée? Dans quelle situation nous est-elle donnée, cette patience? Par les épreuves, hein? Alors, vous allez à Romains, chapitre 5. Pour que vous restiez toujours fondés sur la parole de Dieu. Verset 3, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience. La patience, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour, donc, est patient. Alors, je ne sais pas ce que vous avez vu depuis ce verset 4 dans vos ateliers. Vous allez me le dire tout à l'heure. On va essayer de couper tout cela. L'amour est patient. Et l'amour, qu'est-ce qu'il a encore ? Serviable. Qu'est-ce que vous avez dans une autre version ? Il est plein de bonté. Est-ce que notre attitude auprès de ceux que nous voudrions voir sauvés est une attitude de bonté? Ou bien est-ce que nous sommes énervés et toujours prêts à faire des reproches et à rappeler ce qui nous a été dit? Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil. Ça, c'est des choses négatives. Il ne fait rien de malhonnête. Il y a une autre traduction qui dit « Il n'agit pas avec inconvenance ». Et j'aime beaucoup ça. Il y a des choses qui sont inconvenantes. Et quand l'amour est là, il nous domine, et il y a des choses que l'on ne fait pas. Il ne fait rien de malhonnête, d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal. Vous savez, c'est facile avec quelqu'un qui résiste de lui faire un tableau de ce qui va lui arriver. Si tu ne te convertis pas ce soir, demain, quand tu iras à ton travail, une auto te frappera. Et tu vas passer dans l'éternité. Tu n'es pas prêt. C'est vrai. Il peut nous arriver tout ça. Mais il ne médite pas le mal. Pourquoi ? Parce que il veut le bien. Et il ira jusqu'au bout. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Voilà un être que vous côtoyez régulièrement, qui est, vous est proche, puis lui arrive dans son travail une injustice. Quel est le sentiment de votre cœur? Ça vous réjouit? Il ne l'a pas volé. C'est bien ce que je pensais qui devait arriver. Si vous avez ces sentiments-là, ne vous attendez pas à la conversion de votre bien-aimé, qui n'est pas tellement aimé. Parce que, est-ce que vous n'avez pas déjà pensé, ben, s'il mourait, je serais délivré. Je n'aurais pas besoin de divorcer. Je serais libre. Puis je pourrais recommencer. Vous voyez, c'est biblique? Mais ça peut être dans notre cœur, tout cela. Et c'est ça que nous devons extirper. Nous nous jugeons nous-mêmes de toutes ces choses. Je ne me réjouis pas de l'injustice, même faite à quelqu'un qui m'ennuie. Mais il se réjouit de la vérité. Si, au lieu d'avoir subi une injustice, cet homme que vous voulez évangéliser, ou cette femme, revient de son travail en vous apportant, pour lui c'est une bonne nouvelle, qu'il a eu un succès, ou qu'il a été augmenté, ou n'importe quoi, est-ce que vous vous réjouissez? Il se réjouit de la vérité. Puis le verset 7, donc il est préparé, il pardonne tout. Ah oui, mais pas ça. Vous connaissez ça, nos restrictions à nous. Il pardonne tout. Il croit tout. Est-ce que ça veut dire qu'on croit n'importe quoi? Non, n'est-ce pas? Il croit tout, mais dans le Seigneur. Tout est dans le Seigneur. Il pardonne tout. Pour quelle raison? Parce qu'il se fait lui-même pardonner. Alors, nous savons ce que c'est que le pardon. Il nous a pardonné, alors nous pardonnons. Il croit tout. Il croit tout ce que le Seigneur dit. Il espère tout. Ben moi, je n'espère plus rien avec. Connaissez notre dureté de cœur. Il supporte tout. Mais pourquoi est-ce que nous supportons tout? Parce que l'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs. Et c'est l'amour de Dieu qui supporte tout. Et cet amour, il ne succombe jamais. Il ne périt jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. Il y en a beaucoup qui voudraient que dans nos églises, tous parlent en langue, qu'on ait des visions tout au monde au sujet de l'avenir. Mais tout cela va passer. La connaissance même, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, qu'est-ce qui est parfait? C'est le Christ. Et est-ce que nous l'attendons? Est-ce que c'est un événement qui peut se produire au cours de votre vie? Est-ce que vous le croyez? Il y en a qui ne le croient plus. Ils l'ont cru autrefois. Puis maintenant, non. Ils prennent une autre théologie. Quand ce qui est parfait sera venu, il viendra, ce Seigneur. Alors ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfance. Bien sûr, il y a une enfance spirituelle. Mais on ne doit pas rester dans l'enfance. On croit dans la grâce vers l'état d'homme fait, justement. Verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse. Mais alors, qu'est-ce qui se passera? Nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. L'apôtre les lit. La foi, qui nous a occupés au mois de juin, et qui nous occupe tous les jours, car nous vivons. Nous sommes sauvés par la foi et nous vivons de foi. l'espérance qui nous a occupés le mois dernier et qui est justement dans sa phase finale, la venue du Seigneur. C'est là notre espérance. C'est pas la mort. Hein. Nous savons qu'un jour, si le Seigneur ne vient pas, nous devons mourir. Mais la mort n'est jamais présentée dans l'Écriture comme une espérance. La bienheureuse espérance, c'est d'être enlevé et d'entrer dans la gloire, dans des corps de résurrection, sans avoir passé par la mort. Est-ce que c'est biblique, ça? Ou bien est-ce que c'est une interprétation sectaire? C'est biblique. Et alors, si, pourquoi est-ce que la foi et l'espérance passeront? Parce que quand le Seigneur viendra, la foi sera remplacée par la possession, nous posséderons les choses, alors nous avons besoin de foi. Ou d'espérance, nous posséderons les choses. La foi sera changée par la vue, nous le verrons. Alors nous n'avons plus besoin de la foi, plus besoin de l'espérance, puisque nous avons la possession. Mais enfin, qu'est-ce qui restera? L'amour. L'amour, sans rivage, pour l'éternité. Quel merveilleux avenir est donné aux chrétiens. Je m'arrête ici. Nous voulons nous recueillir dans la prière. Ô notre Dieu, toi qui es le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous attendons à toi et au secours de ton esprit pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire dans cette heure. Nous voudrions réaliser ce que les prophètes ont témoigné quand ils disaient avec les psalmistes qu'ils avaient de la joie en ta parole, comme des hommes qui trouvaient un grand butin et qui pouvaient dire « Ta parole m'a fait vivre » et non pas « Ta parole m'a tué ». Que ta grâce soit avec nous et que ton conseil s'établisse dans chacune de nos vies et que cela devienne pour nous notre vie normale et quotidienne. Amen. Si vous me le permettez, chers amis, nous allons lire les textes qui vous ont occupé, puisque c'est la meilleure méthode pour les apprendre par cœur, afin que, quand nous sommes dans nos occupations, sans avoir peut-être une Bible avec nous, le Saint-Esprit nous rappelle ses paroles et nous dirige. Dans le chapitre 10 de Luc, après avoir vu cet après-midi un jeune homme riche qui posait une question au Seigneur, nous trouvons ici dans ce récit, comme vous l'avez lu, un docteur de la loi, donc un théologien, qui se lève, verset 25, et qui lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui l'y tue? Vous voyez la manière de Jésus qui parle aux âmes. On le questionne, eh bien, lui aussi pose une question. Il renvoie cet homme, docteur de la loi, qui enseigne les commandements, le renvoie à la loi. Qu'est-il écrit? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Il cite donc le schéma Israël que vous trouvez au Deutéronome, écoute Israël, Deutéronome 6, qui était connu de tous les Juifs. Et vous savez, quand j'y pense, pendant la guerre, pendant les massacres qu'Hitler et les siens ont fait aux Juifs, on a constaté que ces Juifs qui allaient mourir, qui étaient dans une chambre à gaz, c'est ce qu'ils récitaient. Et c'est pourquoi je pense qu'il y a eu beaucoup de sauvés parmi ces Juifs. Car qu'est-ce qu'ils ont invoqué dans ces derniers moments alors qu'ils savaient qu'ils allaient mourir, qu'ils étaient tous nus, hommes, femmes, enfants? On les entendait réciter quoi? Ce qu'ils avaient appris quand ils étaient enfants, le schéma Israël. Et alors, que dit l'Écriture? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous savez, nous aurons des surprises. Alors, que dit le Seigneur? Verset 28. Il n'a pas commencé une discussion stérile. Puisqu'il savait bien que le docteur de la loi lui avait posé cette question pour l'éprouver. Donc ce n'était pas pur. Il lui dit, tu as bien répondu. Et vous savez, c'est une méthode qui m'a été donnée quand j'étais ici, au milieu d'un peuple, d'une autre église, enfin de l'église romaine. On était peut-être 150. Eh bien, j'essayais toujours de retenir quelque chose de juste qui avait été dit par un prédicateur, un orateur catholique. Et quand il nous donnait la parole, j'essayais d'abord de souligner ce qui était juste dans ce qui avait été dit. Mais j'avais retenu aussi ce qui n'était pas conforme à la vérité. Mais alors, après avoir souligné ce qui était juste, il nous est possible de relever quelque chose qui a besoin d'être explicité. Et c'est ainsi que, je crois vous l'avoir dit, un monseigneur est venu me dire, vous allez continuer, c'est le Seigneur qui vous a amené ici. Et je pense que si nous avons pu nous réunir tant de fois ici, ça vient de ce travail au sein de ce milieu catholique. Paul VI ayant eu cette révélation qu'il fallait donner la parole à l'Église romaine, à ceux qui y venaient encore. Mais cet ordre crée des difficultés parce que beaucoup ne connaissaient pas la Bible d'une manière vraiment profonde et ils n'avaient pas d'homme pour expliquer la parole. Et alors, c'est pas moi qui ai cherché à y aller, on me l'a demandé. Et c'est ainsi que s'est ouvert plusieurs portes. Je n'ai jamais voulu aller à la trappe, mais quand les Suisses de mes amis, des frères, ont su que j'allais à la trappe, demandé par le père Abbé, eh bien, il voulait déjà signer mon ensevelissement. Ils ont dit, tu mets la trappe? J'ai dit, le Seigneur est bien entré dans la trappe de mon cœur. Pourquoi est-ce que je n'irai pas à la trappe? Mais j'avais peur. On allait me faire un mauvais coup. Comme mauvais coup, quand j'ai fait mes conférences là-bas, je suis reparti avec une boîte de chocolat et du fromage. Vous savez, il ne faut pas avoir peur. Il faut être sûr de notre appel. Et quand j'avais vu un des pères de la trappe pleurer vers moi dans une autre salle, c'était pas à la trappe, c'est lui qui était venu, et qui me dit, mon cher ami, je vous en supplie, venez nous parler à nous, au père de la trappe. Est-ce que je vais lui dire non? Mais j'ai dit, mais votre supérieur, que va-t-il dire? Que va-t-il? Mais c'est lui qui va vous inviter. Mais j'ai dit, mais je pars demain pour l'Europe. Alors quand est-ce que vous revenez? Je vois sortir son carnet, je dis, je reviens le 11 décembre. Alors on met le 11 décembre. Mais quand j'ai dit, oh frère de Suisse, vous pourriez prier pour moi, parce que je m'en vais à la trappe. C'était une abomination de la désolation. C'est toujours comme ça. Alors si vous écoutez les hommes, si vous allez à cause des hommes, ou si vous êtes retenu à cause des hommes, vous ne faites rien. Et alors là, on est enterré, oui. Il faut avoir des convictions. Opinion ou conviction. Et quand vous avez une conviction, vous pouvez tout supporter. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous approuve. Et vous savez, il y a de ces souvenirs. J'avais fait une conférence l'après-midi et je devais faire encore une conférence le soir après le souper et je devais souper avec le père abbé en tête à tête, seul. Je n'oublierai jamais ces moments quand il m'a remercié, qu'il m'a dit « Merci de nous aimer assez pour être venu nous parler de Jésus. » Et dans tous ces contacts que j'ai eus dans l'église romaine, j'y ai vu des prêtres qui pleuraient souvent dans des entretiens. Ils auraient voulu que ça change. Ils auraient voulu une réforme. Mais il y avait des obstacles. Puis ils risquaient d'être mis dehors. Alors il faut les aimer. Et il faut prier. Une conversion ne doit pas faire un anti-catholique, mais un vrai chrétien. Comprenez-vous? Et puis, tout n'a pas été à rejeter. Il y avait des choses bonnes. Il y avait du recueillement. Il y avait du silence. On ne vous donnait pas n'importe quel livre parce que vous étiez un enfant pour rester tranquille. Vous saviez rester tranquille. Il y a des parents qui ont cherché à élever leurs enfants. Alors souvenez-vous de cela. Et n'oubliez pas, si vous avez entendu une prédication d'un évangéliste, n'allez pas laver la tête de vos parents qui vous ont élevé en leur disant, vous m'avez mal instruit. Qu'est-ce qu'ils voulaient vous instruire? La Bible n'était pas permise. Alors souvenez-vous de cela. Et ayez de l'amour. C'est cela notre thème. Dieu est amour. Et vous savez, quand il est dit que tous ceux qu'il invoque pourront être exaucés, nous aurons des surprises. Dieu ne juge pas comme nous jugeons. Je reviens à mon texte. Tu as bien répondu, verset 28. Lui dit Jésus, fais cela et tu vivras, puisqu'il veut faire. Eh bien, fais-le, fais cela, tu connais la loi. Il lui dit quelque chose que l'homme peut comprendre. Mais lui, alors, qui n'est pas à droit, il a voulu se justifier. Vous voyez qu'il n'est pas à droit. Hein? Il l'a fait pour l'éprouver. Et maintenant, voulant se justifier, il dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Qui est mon prochain ? Le prochain, par rapport à chaque individu, c'est l'ensemble de tous les autres hommes. Qui est mon prochain ? C'est l'ensemble de tous les autres hommes, par rapport à un individu. C'est pas seulement un Israélite. C'est pas seulement un Juif, pour Jésus. Verset 30. Jésus nous donne cette merveilleuse parabole du bon samaritain. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. » Je ne sais pas si vous êtes allé en Israël, mais ça descend en effet. De Jérusalem à Jéricho. Et un traducteur qui n'était pas allé, il a traduit « Un homme allait de Jérusalem à Jéricho ». On voyait bien qu'il n'y était pas allé. Parce que c'est une si grande descente, vous ne pouvez pas traduire autrement. Mais il n'y était pas allé. Il tomba au milieu des brigands. Ils le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Alors le sacrificateur, c'était un homme qui connaissait bien la loi et bien les commandements. Il vit cet homme et passa outre. Vous allez le juger mal, hein? Mais si nous avions été là, puis que nous avions un rendez-vous. Est-ce que je vais m'arrêter là? Peut-être que nous aurions passé outre nous aussi, malgré ce que nous savons. Un lévite, c'est un aide des sacrificateurs, qui connaît aussi la loi, qui connaissait le commandement. Il arriva de même à cet endroit, il le vit, et il passa outre. Puis voilà maintenant un troisième personnage, mais un samaritain, ces gens qui n'avaient pas une religion pleinement correcte, ils avaient une religion mélangée, mais cet homme qui n'était pas au courant ou de la vraie vie, qui voyageait, arriva près de lui. Il le vit et il en eut compassion. Donc vous pouvez trouver de la compassion chez un homme qui n'a pas toutes les lumières, toute la connaissance. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Il n'a pas dit, oh mais moi cette huile et ce vin, je suis en voyage, j'en aurai besoin. Il voit un besoin précis et il met à la disposition cet homme de l'huile et du vin. L'huile pour adoucir, le vin pour nettoyer. Puis, il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Enfin, vous connaissez cette histoire. Le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai moi-même à mon retour. On a donné beaucoup d'explications là-dessus, au sujet de ce que pouvaient représenter ces 2 deniers, la parole et la prière pendant l'absence du Seigneur, pour nous qui étions si perdus, et en attendant son retour, eh bien, nous avons les soins nécessaires. Verset 36. Le Seigneur pose la question maintenant, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Je ne trouvez pas que c'est merveilleux que le Seigneur ne lui dit pas tout de suite, c'est celui-là, hein? Mais il lui pose la question, il veut qu'il comprenne quelque chose et qu'il confesse hautement par lui-même que le prochain, celui qui a été le prochain, qui s'est montré plein de compassion, c'est qui? C'est le Samaritain, n'est-ce pas? C'est ça, il faut bien comprendre. Mais il y en a qui disaient, oh ben, le prochain, c'est ce pauvre homme qui était blessé. Non! Le prochain, c'est celui qui a eu compassion du blessé. Ce n'est pas le lévite, ce n'est pas le sacrificateur, des gens religieux, non. C'est le blessé. Eh bien, au moins, vous réagissez. On a tellement dit ça. Le prochain, c'est le Samaritain. Mais il ne dit pas, lui, que c'est le Samaritain. Il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. C'était déjà quelque chose d'arracher cette confession. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Imite le Samaritain. Voilà l'enseignement du Seigneur au sujet du prochain. Alors vous avez eu facilement, je pense, la réponse à la question, des questions qui ne sont que suggérées, hein, parce que vous pouviez avoir d'autres pensées, d'autres questions. Selon Jésus, qui est désigné comme étant le prochain, c'est le Samaritain. Et maintenant, il y a la deuxième question. Comment un croyant peut-il s'aimer lui-même? Et je vous ai demandé de lire Galates, alors nous allons, Galates 2. Verset 20e. C'est certainement le verset que vous connaissez par cœur. Je suis crucifié avec Christ. Est-ce que vous devez être crucifié ou est-ce que vous l'êtes? On l'est. C'est fait. En Jésus. Et vous vous considérez comme mort. C'est le secret de la vie, de se considérer comme mort. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Mais qui alors? C'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous êtes conscient que le Fils de Dieu vous a tellement aimé, il a donné sa vie pour vous sur la croix, mais il n'a pas fait seulement ça, il a pris votre vie et c'est avec votre vie de péché, avec votre vie, avec toutes ces turpitudes en pensée, en action, en parole, que le Seigneur est mort. Il a été jugé, condamné par son Saint-Père et c'est cela que nous croyons. Il m'a aimé et il s'est livré lui-même pour moi. Alors, comment s'aimer soi-même? Quel est votre vrai moi? C'est Christ. Alors, qui est-ce que vous aimez en vous? C'est Christ. Et plus vous le laissez grandir, plus il vous possède, et c'est quelque chose de merveilleux. Et je vous cite ici un verset qui m'a fait beaucoup de bien, parce que quel que soit notre âge, nous avons besoin de recevoir toujours confirmation de ces choses. Au psaume 84, nous lisons ces paroles. « Combien tes demeures sont chéries, éternel des armées. Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Le passereau même trouve un gîte et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, l'Éternel des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. Heureux les hommes dont la force est en toi. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, c'est la vallée du trouble, ils en font une oasis, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur vigueur ne cesse de croître. C'est ce que nous vous souhaitons. Ils se présenteront devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille au Dieu de Jacob. Tu es mon bouclier, vois, ô Dieu. Et regarde qui? La face de ton Messie. C'est quelque chose de merveilleux. Vois, ô Dieu. Il nous voit dans notre misère. Hein? Mais ce qui est dit dans ce psaume, regarde la face de ton loin, de ton Messie. Et Dieu regarde à Jésus. Et il ne voit plus notre misère. Nous aurons l'occasion de vous en parler demain après-midi. Il ne voit plus votre misère. Il vous voit dans les perfections de son Fils. Regarde la face de ton Messie. Et quand Dieu voit la face de son Fils, il nous voit dans une perfection absolue. Alors, c'est cela que nous devons retenir dans nos cœurs. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous. Et nous connaître maintenant, c'est pas connaître seulement notre misère, cela, il l'a pris. Ce n'est plus ma vie. La vie que j'avais, elle a été crucifiée à Golgotha. Et maintenant, la vie qui est la mienne, et c'est vrai, c'est Jésus. Est-ce que vous le croyez? C'est pas une question de sentiment. C'est une question de foi. Je le crois. Et c'est comme cela que la foi nous sert et nous conduit à ce véritable amour. Pour qui en nous? Pour le Seigneur. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Je regarde au Fils de Dieu qui s'est livré lui-même pour moi. Et je vous cite encore dans Philippiens. Au verset 18. Premier. Au verset premier, chapitre premier, verset 16. De toute manière, que ce soit sous un faux prétexte, ou que ce soit en vérité, il parle de l'évangélisation, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Parce que la mort aussi du croyant doit glorifier Dieu. Car pour moi, Christ est ma vie. On n'en a pas d'autre. Et la mort m'est un gain. Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne sais. Il est dit que je vive dans la chair. Ça veut dire qu'il va vivre selon la chair? Non. Mais on est encore dans la chair. Et tant que nous avons une tâche qui n'est peut-être pas terminée, Dieu nous conserve la vie. Mais ce que nous voulons, ce que nous savons, eh bien, c'est que Christ est notre vie. Et verset 23, que dois-je préférer? Je ne sais. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'en suis persuadé, je le sais. Je resterai et je séjournerai auprès de vous tous pour votre progrès, pour votre joie dans la foi. Christ est ma vie. Et la mort mais un gain. Alors nous n'avons plus de frayeur. Est-ce que je peux vous demander comment se sont passés vos appels?
Je vous salue dans le nom du Seigneur, en espérant que vous avez passé une bonne nuit, une nuit de paix, une nuit de joie aussi, parce que le Seigneur veille sur nous et nous fait ses promesses. Il nous a accueillis au début de cette retraite en nous affirmant que comme le Père l'avait aimé, lui-même nous avons aussi aimé. Et il nous exhortait à demeurer dans son amour. Et hier matin, il nous disait qu'il nous donnait la paix et sa paix et que notre cœur ne devait point se troubler ni s'alarmer. Et alors, ce matin, dans ce jour du départ de ce lieu, il prend le Père, toujours, son Père, à témoin, et il l'appelle
Père juste, après l'avoir appelé Père saint. Il nous révèle que son Père est saint, que son Père est juste, il le prend à témoin, et qu'est-ce qu'il nous dit ? Je leur ai fait connaître ton nom. Qui est-ce qui nous a occupés durant ces jours ? C'est Jésus lui-même. Et de qui a-t-il voulu nous parler ? De son Père. Car c'est uniquement en Jésus que nous pouvons connaître le Père. Et sans la connaissance de Jésus, il n'existe pas de connaissance complète de Dieu. Père juste, je leur ai fait connaître ton nom. Ce nom qui est au-dessus de tout nom et qui un jour fera que tout genou dans les cieux, sur la terre et au-dessous de la terre se prosterne devant lui. Je t'ai fait connaître ton nom. Le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. Je t'ai fait connaître ton nom. Et la retraite se termine, mais qu'est-ce qu'il nous dit, lui ? Je le leur ferai connaître. Et c'est cela qui est merveilleux. Vous allez quitter ce lieu, nous allons nous séparer, mais le Seigneur nous reste et il nous fait cette promesse qu'hors d'ici, il continuera de nous faire connaître encore son nom, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en nous. Cet amour qui lui a été manifesté à chaque instant, à chaque heure, par son Père, de telle sorte que même au tombeau de Lazare, quand Jésus lève les yeux, que la foule est là, qui attend ce qui va se passer, il peut dire, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Ce Père juste, eh bien, je leur ferai connaître encore ce nom, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. C'est l'exhortation que nous avons eue. Il voulait que nous restions dans son amour, qui n'est autre que l'amour de Dieu, car Dieu est amour. Et non seulement que l'amour dont Jésus a été aimé soit en nous, que lui nous pouvons avoir alors, et que lui-même soit en eux, que je sois en eux. C'est lui que nous voulons emporter, et nous savons qu'il ne va pas nous décevoir. Si nous avons Jésus, nous savons qu'au nom de Jésus, nous pouvons demander tout au Père et qu'il nous accordera les demandes que nous lui aurons faites, parce que Jésus est toujours exaucé. Et bien que le Seigneur nous garde, qu'il nous bénisse dans cette dernière journée et que tout se passe selon sa volonté et selon ses directions. Maintenant, chers amis, puisque l'on me l'a demandé, est-ce que vous estimez que je dois dire que certains se sont plaints de la nourriture ? Parce que quelqu'un m'a fait remarquer que c'est un peu partout que ça avait baissé. Oui, je suis bien d'accord. Tu as tout à fait raison. Puis vous savez quand même, hein, le but de ces rencontres, c'est pas de bien manger. On vient ici parce que on avait ce but de nourrir d'abord nos âmes. Mais quand le Seigneur nourrit nos âmes, il ne nous laisse pas mourir de faim non plus. Mais est-ce qu'il y en a qui ont eu faim ? Ou est-ce que vous trouvez que c'est mal préparé ? Et puis, comme je vous le disais, ils doivent aussi, parce qu'il n'y a plus que des sœurs pour faire le travail, hein, ils doivent prendre des gens du dehors et qui ne viennent pas toujours avec les mêmes qualifications. Alors, nous ne voulons pas nous plaindre, hein, parce que comme nous vous le disions, notre vie devrait être une louange et une action de grâce. Et que, justement, nos sœurs ici, aussi celles qui sont encore là, puissent s'en souvenir. Maintenant, au sujet de cette matinée, on m'a fait remarquer, et je suis tout à fait d'accord avec cela, que dans le culte, il n'y a pas beaucoup d'adoration. On voudrait arriver à ce que vous sachiez vraiment ce que c'est qu'adorer Dieu, avoir des actions de grâce, des prières d'adoration, et non pas simplement un partage. Parce que dans beaucoup d'églises maintenant, on ne fait que des partages. On raconte tout ce qu'on a fait dans la semaine, etc. Mais on n'adore pas Dieu. Et il est digne d'être adoré. On vient pour lui. On ne vient pas pour écouter un sermon, on vient pour l'adorer. On est en sa présence, on croit à la présence réelle du Seigneur. Pour quelle raison? Il a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Alors, on le croit. Et puisqu'on croit qu'ensemble, on est dans sa présence, on laisse notre cœur déborder. Mais il faut que le cœur soit rempli. Alors, si vous avez des partages qui remplissent vos cœurs, faites-les ce matin. J'ai laissé cette matinée entièrement libre pour qu'on soit conduit par l'Esprit. Et vous pourrez vraiment vous exprimer si vous avez un partage ce matin. Mais cet après-midi, nous voulons, après la prédication, la consacrer à un culte d'adoration. Le Père Céleste, dont on a parlé, dont Jésus nous a parlé, cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et voyez-vous, tout converge, comme nous l'avons annoncé, vers la Sainte Cène, c'est-à-dire ce qu'on a appelé l'Eucharistie, hein, qui veut dire la suprême action de grâce, mais dont on a fait. Et je l'ai entendu même ici, de la part de théologiens catholiques, on ne doit pas chosifier l'Eucharistie. Hein? Parce que même s'il tombait une miette de l'hostie, eh bien c'était comme si c'était le Seigneur qui était tombé à terre. N'est-ce pas? Non, on ne chosifie pas. Et il ne se fait rien de magique au moment où nous demandons à Dieu de pouvoir nous souvenir de son Fils, de ses souffrances, de sa mort, et où nous prenons le pain qui nous rappelle quoi? Son corps qui a été déchiré, qui a été donné pour nous, et où nous buvons le vin qui nous rappelle que nous vivons maintenant de sa vie, que quand le vin nous pénètre, eh bien, nous confessons que nous n'avons plus un Christ extérieur à notre vie, mais que nous avons un Christ intérieur. Il vit en nous. Alors, nous arrivons donc à ce que nous disions hier soir, et il y avait encore deux groupes qui n'ont pas pu s'exprimer. C'était le groupe 1 et le groupe 2, je crois. Et vous dire, vous le savez peut-être, la doctrine des Grecs, la doctrine des Romains, la doctrine des Chinois, la doctrine des Bouddhistes, la doctrine des Brahmes, la doctrine des musulmans, et ce qui est la doctrine chrétienne. Je lis le chapitre, au chapitre 9, versets 23 et 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il s'aime lui-même. C'est ça vos traductions, hein? Quand nous écoutons tout le temps ce qui se dit dans le monde, ça entre. Et puis, on a des pensées qui ne sont plus celles de Dieu. Et il faut un vrai nettoyage. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge occasionnellement. C'est ça votre traduction. Corrigez. 1998. Quelques mois avant l'an 2000. Qu'il se charge chaque jour. Et j'ai beaucoup aimé la réflexion de quelqu'un qui a dit, ce n'est pas au quotidien, c'est heure après heure. Et nous dirons moment après moment. C'est cela qui doit nous remplir. Et nous sommes alertés par cela. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Pour suivre quelqu'un, il faut regarder en arrière. Il faut se regarder soi. Il faut regarder devant. Hein? Celui qui marche devant nous. Et qui est celui qui marche devant nous? C'est lui, c'est Jésus. Qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, et vraiment on veut sauver sa vie en s'aimant soi-même, puis on la perd, puis on est malheureux, parce qu'être avec soi-même, ça devient épouvantable. On dit, si seulement je pouvais me quitter. Mais j'ai pas le droit de me suicider. N'est-ce pas? Alors, que le Seigneur nous parle dans ces derniers moments. Celui qui voudra sauver sa vie, il la perdra. Et vous savez, si le Seigneur dit cela, c'est que c'est vrai. Hein? Mais celui qui la perdra à cause de moi, pourquoi? Parce qu'on l'accepte lui, il la sauvera. Et c'est quelque chose. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Eh bien, que le Seigneur bénisse cette matinée. Maintenant, je vous signale la théorie des Grecs. Mon fils, l'autre jour, m'a téléphoné depuis Delphes. Il avait été appelé pour représenter la Suisse. Il y avait un représentant de chaque nation à Delphes, en Grèce. Et c'est à Delphes qu'il y avait le fameux « Connais-toi toi-même ». Alors, pour les Grecs, la vraie vie, eh bien, il faut se connaître soi-même. C'est en partie vrai. Et on a tous besoin de se connaître soi-même. Mais comment peut-on se connaître soi-même? En voyant qui? En voyant Jésus. C'est dans la vie de Jésus que j'ai pu remarquer que je n'avais pas cette vie. Et que j'ai soupiré après la vie de Jésus et que je l'ai accepté comme mon sauveur personnel. Puisqu'il n'y avait que cette vie qui pouvait entrer dans le ciel parce qu'elle plaisait au Père, eh bien, je désirais cette vie. Connais-toi toi-même. Il faut apprendre à se connaître. C'est vrai. Alors c'est ça la théorie des Grecs. Mais se connaître soi-même, ça nous conduirait au suicide. Regardez, tous ces hommes de la Bible ont dû apprendre à se connaître eux-mêmes. Je pense à Job. Job, à la fin de ses épreuves, quand il a entendu vraiment la parole du Seigneur, qui n'a pas répondu à ses questions, mais qui lui a posé des questions, eh bien, il a dit, j'ai horreur de moi. C'est pas moi qui l'invente. Il est arrivé à cette conclusion. Et l'apôtre Pierre, qui était si sûr de ne pas abandonner le Seigneur, de faire mieux que ses camarades, quand il a dit au Seigneur, quand même tous t'abandonneraient, il les a tous jugés, moi, je ne t'abandonnerai pas, quelques heures après, il a renié son maître avec des imprécations. Il connaissait pourtant le Seigneur, mais il a pu dire, je ne connais pas cet homme. Et qu'est-ce qu'il lui avait fait cet homme, peu de temps avant? Il lui avait lavé les pieds. Je ne connais pas cet homme. Alors, pour les Grecs, c'était connais-toi toi-même. Pour les Romains, domine-toi toi-même. Domine-toi toi-même. Est-ce que vous arrivez à vous dominer vous-même? Nous ne sommes pas capables. Nous n'avons pas la force. Pour les Chinois, c'est améliore-toi toi-même. Est-ce que nous arrivons à nous améliorer? Est-ce que la conversion amène une amélioration de soi? Pas la chair. La chair reste la chair. Ce qui est né de la chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut une nouvelle vie. C'est pas améliore-toi toi-même. Parce que on constate toujours que c'est pas meilleur. Pour les bouddhistes, anéantis-toi toi-même. Pour les brahmanes, plonge-toi toi-même. Pour les musulmans, courbe-toi toi-même. Et pour les chrétiens, renonce à toi-même. Renonce à toi-même. C'est là la solution pour nous, mes bien-aimés. Mais en renonçant à soi-même, qui est-ce qui va remplacer en nous, dans notre vie? C'est celui qui dit qu'il veut habiter en nous, qu'il veut demeurer en nous. Et je voudrais vous citer encore un passage qui m'a beaucoup aidé dans toute mon existence, au chapitre 4 de la deuxième aux Corinthiens. Quand on a accepté Jésus-Christ, c'est un trésor. Verset 7 du chapitre 4 de la deuxième aux Corinthiens. Oh, je lirai depuis le verset premier. Ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Est-ce que nous avons compris cela? C'est la face du Christ que l'on doit voir en nous. Alors verset 7, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Ça c'est vrai, le vase est un vase de terre, souvent fêlé, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Je me souviens, quand j'étais à l'hôpital à l'âge de 15 ans, un pasteur venait chaque mardi et puis il nous faisait une petite méditation. J'étais dans une chambre où on était 18 et il avait dit ceci: bien souvent, nous naissons avec des traits qui ne sont pas nécessairement beaux. Mais quand on rencontre un vrai croyant, eh bien, on a vraiment l'impression qu'il a une beauté tout à fait divine. Ces traits sont peut-être assez grossiers, mais il y a quelque chose en lui qui nous le fait reconnaître comme appartenant au Christ. Et ça, ça m'est toujours resté. C'est vrai que il y a des gens qui ne sont pas beaux physiquement, si vous voulez, mais on éprouve à leur contact la présence de Dieu. Alors, ce n'est pas la beauté physique qui doit compter. Jésus lui-même n'avait ni forme ni éclat. Quand on le voyait, il n'y avait pas d'apparence en lui pour nous le faire désirer. Or nous, on veut toujours avoir l'apparence. Ce n'est pas l'apparence qui compte, c'est la réalité dans la vie. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Qu'on ne dise pas, ben, c'est lui. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduit à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Parce que le désespoir, qu'est-ce que c'est? Nous l'avons vu dans la retraite précédente, c'est un péché. Et le désespoir, nous devons le considérer comme un péché. Jésus a dit, personne ne vous ôte votre joie. Personne ne vous ôte votre joie, parce que cette joie, c'est celle du Christ. Persécuté, mais non abandonné. Abattu, parce que nous sommes des êtres qui avons un corps, mais non perdu. Portant toujours avec nous, dans notre corps, quoi? La mort de Jésus. Nous savons pourquoi il est mort. Il est mort pour nos péchés, pour notre culpabilité, il a tout pris, mais il nous a pris avec lui dans sa mort. Et nous nous souvenons que Dieu nous considère comme morts. Portant toujours partout, nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifesté dans notre chair morte. Alors, c'est dans la mesure où nous portons la mort sur nos pensées, sur nos actions, sur nos paroles, que la vie de Jésus peut se manifester, portant toujours partout la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent, qu'est-ce qu'elles produisent ? Produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Et bien que Dieu nous donne d'être comme Moïse, qui regardait à celui qui est invisible et qui avançait dans le désert, non pas en voyant le désert, mais en voyant le Seigneur.